Classique 21, Soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
You look like an angel,
look like an angel,
walk like an angel,
walk like an angel,
talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are.
Deuxième heure de Soundtrack, et je l'avais déjà mentionné tout à l'heure en commençant l'émission, hein, on consacre ici une spéciale à Elvis Presley, donc on revient sur cette figure iconique, mais est-il nécessaire de le préciser? C'est à l'occasion de la sortie du film documentaire Elvis Presley in Concert, épique d'ailleurs. C'est une séquence qu'on partage ce matin avec Dominique Raguep, qui pique aussi peut-être le matin d'ailleurs.
Oh, j'ai la forme d'un hérisson ce matin, mais non, je suis de bonne humeur, allez. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Bonjour Dominique. Alors, projet ici de du réalisateur Baz Luhrmann. Donc ça, c'est un film qui fait suite au fameux biopic Elvis qui était sorti il y a déjà bientôt 4 ans.
Oui, Elvis en 2022 avec un Austin Butler très convaincant hein, dans le rôle du King et un Tom Hanks manipulateur dans son personnage du manager peu scrupuleux du colonel Parker. D'ailleurs, à ce propos, ce documentaire Baz Luhrmann's Epic Elvis Presley in Concert... Lorsque l'on voit les images dans le documentaire sur le morceau qu'on vient d'entendre, Devil in Disguise, eh bien, on voit justement le colonel Parker, et c'est pas un hasard, puisque c'est un petit clin d'œil pour souligner l'aspect diabolique du manager. Alors, ça, c'est peut-être ce qu'on peut reprocher au réalisateur, hein, d'avoir sa vision du colonel Parker et son influence négative et son influence surtout sur le déclin d'Elvis Presley. Et, c'est vrai que ce rôle négatif ne fait pas l'unanimité, hein, chez les spécialistes. En tout cas, ce projet épique est bien né de ce biopic parce qu'il travaillait sur ce film et Baz Luhrmann, lorsqu'il a commencé à préparer son biopic, qui est d'ailleurs en train de préparer un autre biopic sur Jeanne d'Arc, mais ça n'a rien à voir, et une comédie musicale sur Elvis Presley, eh bien lorsqu'il a commencé à travailler sur Elvis, il s'est beaucoup documenté et est tombé sur 60 heures de bobines en 35 mm
qui avaient
été, c'est des heures et des heures et des heures, qui avaient été précieusement conservées, figurez-vous, dans une mine de sel.
Ah tiens. Donc.
En fait, ce sont les rushs de deux documentaires, Elvis That's the Way It Is, réalisé par Dennis Sanders, et Elvis On Tour, réalisé par le tandem Pierre Adige et Robert Abel, monté à l'époque par un certain Martin Scorsese, qui était tout jeune, qui n'était pas encore connu, mais qui avait déjà travaillé en tant qu'assistant réalisateur et monteur sur le film Woodstock. Mmh. Alors, toutes ces images ont été captées pendant des années, en fait, sur pas moins de 1000 concerts entre 69 et 1977. Et ce ne sont pas que des images de live, hein. Ce sont aussi des moments immortalisés sur pellicule, de répétitions, de pauses en coulisses, de moments presque intimes entre le King et son équipe et son entourage. Alors, on peut se poser la question, pourquoi il y a autant d'images? C'est qu'à l'époque, eh bien, la vidéo n'est pas encore très exploitée et qu'il faut avoir un maximum d'images en cas de pépins, surtout lorsqu'on est en train de suivre le King. Alors les pépins, ça peut être le développement de la lumière qui est pas bonne, une surexposition, une sous-exposition, une pellicule qui a abîmé simplement au moment du développement, et puis des mouvements de caméra qui sont trop saccadés. À l'époque, il n'y avait pas de stabilisateur d'image, ni de, comme on appelle ça, des steadicam.
Ouais, c'est pas comme aujourd'hui où même avec un smartphone, on arrive à le stabiliser avec des appareils spéciaux. Quoi, ouais.
Même le steadicam, les premières utilisations de cette technique de vue, hein, pour avoir des vues en mouvement, mais sans rail de travelling, qui permet de suivre les personnes, n'ont été utilisées ces techniques que dès 76 avec le film Marathon Man ou encore Rocky. Donc Baz Luhrmann est parti de ses 60 heures de chute pour créer un documentaire sur la presque fin de carrière d'Elvis. Hein. C'est vrai que c'est cette période 69-1977.
Et alors ces images, bah, c'est quand même des rushs, des chutes de moins bonne qualité, et pourtant, bah, est-ce qu'on peut y donner un grand intérêt?
Oui, en fait, toutes ces images ont été restaurées. Hein. Le film Epic sort d'ailleurs en IMAX. Et en fait, Baz Luhrmann est allé voir son copain, Peter Jackson, pour cette restauration. Et il a utilisé les mêmes techniques que le metteur en scène de la saga du Seigneur des Anneaux avait utilisées pour son formidable documentaire consacré aux derniers jours des Beatles, Get Back.
Très très beau documentaire que je conseille.
Ne pas manquer, même si c'est très 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 long, on peut voir la genèse.
C'est des heures de studio, voilà. des chamailleries aussi, beaucoup de jam.
Et puis il y a des moments sublimes, comme on voit par exemple Paul McCartney qui est en train de créer Let It Be, tout simplement, au piano. C'est des moments absolument fabuleux. Et ici, c'est un petit peu différent parce qu'on a des images effectivement qui ont été captées sur de longues périodes. Et c'est vrai qu'on a ces images qui sont époustouflantes parce qu'elles sont rares d'abord, et surtout elles ont été restaurées. Et puis ces images ont surtout été prises lors de la résidence d'Elvis Presley à l'International Hotel à Las Vegas et durant sa tournée des stades en 72. Alors ici, ce qui diffère un peu, c'est que la narration n'a pas été confiée à un comédien, mais bien au King lui-même.
Okay.
C'est Elvis qui se raconte. L'équipe a en fait exploité des bandes audio tout à fait inédites sur lesquelles Elvis se confie. Et donc la narration est constituée par les réflexions, humeurs, anecdotes du King. On est très très loin du format habituel du documentaire sur une star.
C'est un petit peu à l'instar du documentaire Moon Age the Dream que David Bowie avait fait.
Oui, exactement. C'est un peu dans le même esprit en tout cas. C'est peut-être un petit peu la mode en ce moment de refaire des documentaires avec juste les confidences de ces stars. Et c'est vrai que par exemple, on a des moments très très forts dans ce film. Des moments, je vous le disais, de coulisses. Il y a cet instant où on voit le King improviser pour s'amuser. Hein, comme ça, il improvise et il lance son Oh Happy Days des Edwin Hawkins Singers. Et ces images-là, on ne les avait jamais vues. Et d'ailleurs, cette prestation figure sur la BO du film.
Oh, they just started to roll the camera and we stopped singing, man. Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Sins away.
Oh.
Church.
Oh, happy day.
We'll go upstairs and sing until daylight.
Oh, happy day.
You know, gospel songs.
Oh Happy Day, quelque part, c'est un petit peu inédit, hein, donc ici ce matin dans Soundtrack, puisque c'est donc extrait de la bande originale, donc d'Epic, cette BO qui sort de la compilation classique qui est consacrée au King et que on passe à la loupe ici ce matin avec vous, Dominique.
Oui, une BO très très riche avec 27 titres qui vont, à mon avis, sans doute heurter les puristes. Hein. D'abord, c'est pas ici les plus grands succès. Hein. Les premières années sont un petit peu éclipsées au profit de sa discographie, je dirais, post Elvis, vous savez, son show, il est TV, où il est tout en cuir, ouais. Donc 69. On est plutôt dans le registre de ses reprises, hein. Notamment on a droit à Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel, Pork Salad Honey, Suspicion Man, ou encore In the Ghetto, qui est ici proposé sous la forme d'un remix. Et des remixes, il y en a plusieurs. Comme si la volonté de Buzzerman et de son équipe, c'était un peu de remettre au goût du jour et surtout de toucher, de sensibiliser les jeunes générations au talent du King. Des remixes pour faire danser, avec des arrangements parfois disco, pour être peut-être, à mon avis, en tout cas c'est l'intention, plus en phase avec cette époque durant laquelle Elvis a donné toute cette série de concerts, hein, plus de 1000, faut-il le rappeler. On est loin cependant du remix des années 2000, hein, Junkie XL, souvenez-vous, Little Less Conversation.
Ouais.
Ce ne sont donc pas ici des titres dans leur forme originale, qu'on peut trouver sur les différents albums, mais quelque chose un petit peu différent. Ils ont quand même été retravaillés, et il y a même quelque part de nouveaux morceaux. Il y a par exemple un match-up, donc un assemblage de plusieurs titres. Ici, quatre titres d'Elvis pour en concevoir un nouveau. C'est le cas de Wearing That Nightlife Look qui se construit autour de Wearing That Love On Look, Nightlife, I, John and Let Yourself Go.
Vous pouvez me le refaire, ça?
Dans les quatre titres. Donc, Wearing That Love On Look, Nightlife, I, John et le dernier, Let Yourself Go. Et ça donne au final un morceau très orchestré avec des passage porté par des chœurs, des montées, un petit peu comme on peut entendre dans certaines productions pour les dance floors. Un titre vraiment pour danser et, bah, il faut le dire, hein, formaté pour les DJ. Et c'est assez réussi. Mais en tout cas, moi, ça me pose quand même quelques questions.
Bon, bah écoute, on va en parler dans un instant. On va tout d'abord écouter We're in That Nightlife Look.
The dice go turning and you hit snake eyes. You can't be a quitter when you're caught up in the glitter of that nightlife, nightlife.
go a-turning and you hit snake eyes. You can't be a quitter when you're caught up in the glitter of that nightlife.
And now, ladies and gentlemen, we're nightlife. Very proud to present the Sweet Inspiration.
Play the hell out of it.
Baby, when that love don't look baby, when that love don't look you can't be a quitter when you're caught up in the glitter of that.
Baby,
can't be a quitter when you're caught up in the glitter of that.
Baby,
can't be a quitter when you're caught.
Baby,
be a quitter when you're caught. Be a quitter when you're
when that love don't.
Robin Wright Nightlife Look, que l'on retrouve donc aussi dans la bande originale épique. Et vous disiez il y a quelques instants, hein, c'est réussi, mais ça vous fait vous poser quelques questions.
Bah, ça a l'air ici, c'est un match-up. Donc on a refait un nouveau morceau qui sonne comme presque aujourd'hui certaines productions de certains DJ, alors que c'est quand même des enregistrements qui ont été faits il y a longtemps.
60 ans, oui.
Et on peut se poser la question sur l'IA. Voilà.
Ah bah
je
oui.
pose ça là, mais
on en fait ce qu'on veut.
Voilà, il y a quand même un gros travail qui a été refait sur cette bande son. On est très très loin des enregistrements originaux du répertoire de The King.
Et puis alors il y a aussi des stars qui sont venues. Il y a des mythes.
Oui, il y a une surprise aussi dans la BO figure Bono,
ouais.
Qui chante ou plutôt déclame un poème sur une musique à la mémoire d'Elvis. C'est vrai qu'il y a pas mal de stars et c'est vrai qu'Elvis appartient à cette seconde catégorie, hein, presque 50 ans après sa disparition, il reste le King, hein, 50 ans, enfin oui, presque 50 ans, hein, c'était le 16 août 77. Le King, c'est un surnom qui n'a jamais vacillé quelque part pour moi, en tout cas parce que Elvis n'est pas seulement un chanteur, il est pour moi une véritable, ou il a été une secousse culturelle. En 54, chez Sun Records à Memphis, il mélange le gospel, le rhythm and blues et la country blanche du Sud. Il n'invente, c'est vrai, peut-être pas tout, mais en tout cas, il va à ce moment-là catalyser un tout. Sa voix est sensuelle, son phrasé est libre et surtout il bouge. Hein. Il y a ce fameux déhanché
à Elvis. Ouais.
Et puis à la télévision américaine, ses hanches effectivement vont en quelque sorte déclencher l'hystérie.
Autant que l'indignation.
Et l'indignation,
oui.
Ouais, exactement. Ben, c'est là que le rock'n'roll devient une affaire nationale. Hein. Et après sa mort, moi je dirais que même le cinéma a continué de le raconter, de le réinventer. Chaque génération redécouvre son histoire comme une légende en hein, on l'a vu notamment avec le biopic Elvis.
Il y en a eu un autre de biopic bien
dans
avant.
Les années 80.
Ouais.
Et puis il y a eu surtout des grandes stars d'Hollywood qui ont imité Elvis Presley. Et même il y a l'imitation de Jim Carrey d'Elvis Presley.
Ah bah oui, ça c'est le maître aussi de la comédie des années 90, lui. Hein.
Bah, ce qui est amusant aussi, c'est que justement dans les années 80, on s'est un peu moqué d'Elvis. Hein. On s'est plutôt focalisé sur sa filmographie et ses 31 longs métrages et surtout sur sa filmographie avec de gros navet. Et également, dans les années 80, on s'est moqué de sa fin de vie, de sa période un peu Las Vegas, avec ses rouflaquettes. Une époque aussi, dans les années 80, où il est très critiqué pour, je mets entre guillemets, son appropriation culturelle. Le blanc qui vole la culture des Afro-Américains.
Mmh.
Et une image qui va, quelque part, moi je dirais, vraiment changer dans les années 90, avec un président américain qui est un fan, Bill Clinton,
oui.
Et qui va même jouer devant un public au saxophone Heartbreak Hotel. C'est un peu la mise en scène aussi du pelvis de Forrest Gump, par exemple. Et puis c'est l'époque où Priscilla Presley fait du cinéma avec la série Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Et ça continue avec de nombreux artistes qui ont marqué au fur et à mesure leur admiration, et ce, malgré les modes.
Ouais. Alors, mais si Elvis reste le king, ben, c'est surtout parce que les autres rois se réclament de lui aussi.
Oui, évidemment. The Beatles ont grandi avec ses disques. Hein. John Lennon disait, avant Elvis, il n'y avait rien. Bruce Springsteen raconte qu'il a voulu faire du rock après l'avoir vu à la télévision. U2 a été enregistré dans les studios Sun à Memphis pour toucher ce mythe fondateur quelque part. Prince aussi aussi Mick Jagger, Chris Isaak, qui a aussi enregistré un album autour du label Sun et de cette période d'Elvis. Tous revendiquent l'héritage, que ce soit sa sensualité, son jeu de scène, ce mélange des genres et sa théâtralité.
Ouais, et alors je voulais revenir, Bruce Springsteen, qui avait même apparemment escaladé le portail de Graceland pour aller déposer une cassette.
Oui, et puis au-delà de ces artistes qui se revendiquent, en tout cas qui sentent une filiation avec le King, il y a tous ces titres hommages, on l'a entendu tout à l'heure avec Dire Straits, ces titres hommages au King, comme par exemple, moi je dirais, Personal Jesus de Depeche Mode, sorti en 1990, morceau, peut-être pour moi en tout cas, le plus rock du groupe, et qui salue la figure d'Elvis Presley. Le titre Personal Jesus, venant du livre de Priscilla Presley, Elvis and Me, et dans lequel elle qualifie le King comme son Personal Jesus.
Ok.
Et voilà. Et ce n'est pas hasard si ce titre de Depeche Mode a été repris par Johnny Cash, membre du Million Dollar Quartet, ce groupe qui, le 4 décembre 1956, se retrouve dans un des studios de Sun à Memphis, dans le Tennessee, pour une jam réunissant Carl Perkins, Jerry Lewis, Johnny Cash et The King.
La crème de la crème. Et on va refermer donc cette spéciale ici avec cette reprise donc de Personal Jesus. Et la séquence que vous retrouverez bien entendu aussi dès cet après-midi sur Rovio. Merci beaucoup Dominique, bon dimanche.
À dimanche prochain.
Classique 21, Soundtrack.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Voilà, à l'instant, donc, pour cette revisite du Personal Jesus de Depeche Mode par Johnny Cash ici en 2002 et qui vient refermer, cette spéciale dédiée à Elvis Presley. We're on the classic 21.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.